Bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. On est ravis de vous retrouver en ce dimanche matin pour le 61e épisode de cette émission. Alors aujourd'hui, on est trois dans le studio, Fred qui vous parle, Pierrick et Axel.
Bonjour. Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous raconter de beau aujourd'hui ? Eh bien, on va commencer, comme d'habitude, par le ciel ce soir. Ensuite, il y aura quelques actus, mais assez rapides. Là, cette semaine, on n'a pas grand-chose. Ensuite, Axel, tu vas nous parler des novas.
Ouais.
Donc, ces explosions d'étoiles, tu développeras ça.
Mm-hmm.
Et après la pause musicale, je ferai un petit point d'astro sur les sursauts gamma. Là aussi, phénomène très énergétique, très explosif. Donc, c'est une émission qui est consacrée aux hautes énergies aujourd'hui.
Ouais.
On vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller voir le podcast de l'émission sur le site de RDOA, rdwa.fr, émission thématique l'étoile polaire. Voilà, donc tout n'est pas encore disponible suite au changement un peu du site, mais il y a quand même déjà plusieurs émissions, les dernières en fait, qui sont disponibles. Que vous dire d'autre? Rien de spécial, hein. On va commencer tranquillement.
Eh ben ouais.
Allez, c'est parti. Alors, le ciel ce soir, qu'est-ce qu'on peut observer en ce moment? Alors, on reste toujours dans cette dynamique-là de ciel nuageux. Hein,
ah oui,
globalement,
ça, malheureusement.
Là, on peut dire quand même que ça s'enchaîne pas mal. On n'a pas beaucoup de fenêtres pour observer le ciel. Quand on en trouve, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit toujours les constellations circumpolaires, hein, Grand Ours, Petit Ours, Cassiopée. Qui sont là, toujours la Grande Ourse en mode un petit peu vertical, un peu en forme de point d'interrogation, avec Cassiopée qui vient, elle, raser l'horizon. Si ensuite on s'éloigne un petit peu de l'autre côté qui se couche, on va avoir en début de nuit, on va avoir le Jupiter donc, qui se couche, qui disparaît de plus en plus tôt, qui devient d'ailleurs difficilement à la limite de l'observable, en fait, parce qu'elle commence à être assez basse, en fait. Et elle va l'être de plus en plus. Donc bientôt, on ne pourra plus l'observer. Vers là-bas, on trouve quoi ? Eh bien, on trouve beaucoup de constellations du zodiaque, là, quand même, en ce début de soirée, avec le Bélier, qui part un peu dans les lueurs du couchant. Ensuite, on arrive sur le Taureau, avec toujours ce V du Taureau et cette étoile orange Aldébaran. Avec juste à côté de ce V, les Pléiades, un grand classique. Hein. Ensuite, on trouve autour de ça, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le Cocher et on va aussi avoir, évidemment, Orion. Donc la grande constellation d'Orion avec les trois étoiles alignées au milieu de la constellation, assez facilement repérable, qui, quand on les prolonge alors vers la gauche et vers le bas, en fait, on tombe sur l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, dans le Grand Chien. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe comme constellation ? Eh bien, on a le Lion, bien sûr, qui se lève en début de nuit, qui est déjà levé en début de nuit, bien majestueux, donc sa grande tête là et ce grand trapèze qui lui sert de corps. Entre les deux, on trouve le Cancer, constellation un peu diffuse, mais si vous arrivez à la repérer, vous verrez une grande tache floue en son centre, en fait, qui est en fait l'amas de la crèche, que vous pouvez ensuite grossir aux jumelles. C'est un amas ouvert, un des plus beaux du ciel. Voilà, ensuite on trouve la Vierge. Et puis, si ensuite on attend un petit peu que la nuit se déroule, on va avoir petit à petit la réapparition en fait un début de ciel d'été avec le Bouvier, avec la Couronne, avec Hercule qui petit à petit vont apparaître.
Ouais, je remarque souvent Arcturus qui se lève, cette étoile brillante au-dessus du Glandas depuis mon point de vue,
oui.
À l'ouest de Die. C'est un plaisir de revoir
Arcturus. Un peu orangé, hein, Arcturus.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, ça nous annonce un peu l'été. Alors au niveau des planètes, on a dit qu'effectivement pour Jupiter, là, on a eu tout cet hiver une période très, très faste pour l'observer. Là, c'est en train de se terminer. On va avoir dans le courant du mois d'avril, en fait, plutôt en fin de mois, on va avoir Mars et Saturne qui vont réapparaître au matin, a priori.
Ouais.
Mais pour l'instant, là, pour la première quinzaine d'avril, en réalité, il n'y a pas de planète observable.
Moi, j'ai fait des belles observations de Mercure, là.
D'accord.
Mais je crois qu'elle est partie maintenant, mais... Voilà, elle est quand même, on peut bien l'observer finalement. Je pensais que c'était assez compliqué, mais en fait, si on est un peu bien positionné.
Au petit matin
Non, le soir. Le soir, on arrive bien à la voir. Au moment là où les premières étoiles apparaissent, où Jupiter brille fort et un peu que elle, à ce moment-là, là, vraiment, on peut bien la voir. Et c'est toujours chouette, quoi.
Bien sûr.
C'est très facile de la repérer avec les applications sur le téléphone pour être sûr que c'est ça.
Voilà. Elle est dans quelle zone, tu l'observes ?
Eh ben, vraiment dans le couchant, là, vraiment à l'ouest.
Petite étoile.
Ouais.
Enfin, relativement brillante quand
si,
même.
Si, quand même, en fait. Ouais, elle brille. Elle brille moins que Jupiter. Elle n'est quand même pas aussi brillante, mais...
Non, mais elle m'a attiré l'œil l'autre fois aussi. Je me suis dit, mais tiens, c'est quoi cette étoile qui n'est pas censée être là ? Il n'y a pas d'étoile brillante dans cette partie du ciel. Et effectivement, grâce aux applications sur téléphone, je me suis dit, ah, mais c'est Mercure. C'est vrai qu'on est à son élongation maximale avec le Soleil, le moment où d'apparence, elle est le plus loin du Soleil pour nous. Et qui nous permet de l'observer. Elle n'est pas noyée dans sa lumière comme souvent.
Ouais, c'est quand même, ça brille un peu... On le voit bien, quoi.
Ouais.
Par contre, le seul inconvénient pour l'observer, c'est que ça ne dure pas longtemps, en fait.
Ah oui,
je dirais que tu as une petite heure, une demi-heure, et basta.
Après, elle se couche.
Voilà.
On avait parlé la semaine dernière de la comète là, qui nous rendait visite en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que vous avez réussi à l'observer ?
Non.
Moi, pas.
Non.
Non, j'ai essayé une photo longue pose à un moment où le ciel était dégagé pour une fois. Et je me suis dit, bon, à l'œil nu, je ne la vois pas, peut-être en photo, mais juste avec mon téléphone, en mettant 20 secondes de pose. Et c'était un soir de pleine lune, donc j'ai énormément de lumière résiduelle. Une petite tache, je pense que c'est ça, mais de là à dire que ça vaut quelque chose, c'est pas ça.
Moi, je n'ai pas réussi à la voir, même aux jumelles, en fait, très vite, je suis mal placé, en fait. J'ai une montagne en face, là, qui me bouche l'ouest. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à l'observer. Bon, c'était juste comme ça. En tout cas, on en a parlé au Portez-vous à l'émission précédente. Il me semble qu'elle est de plus en plus brillante en avril. Elle était censée un peu augmenter, diminuer en magnitude.
Ouais. Elle baisse sur l'horizon, en même temps.
Mais en même temps, elle baisse sur l'horizon, donc elle est encore de plus en... Ouais, il faut avoir un horizon ouest vraiment dégagé.
Ouais.
Et ici, c'est pas. Enfin, ça dépend des endroits. Ok, alors je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on peut observer en ce moment. Après, bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à prendre une paire de jumelles. Et vous allez voir en fait qu'en vous promenant, déjà vous allez voir plein de mini-constellations, ce qu'on appelle des astérismes, des petites formes comme ça, des triangles, des carrés, un peu tout ce que vous voulez, des petites couronnes, des losanges. Il y en a un peu partout, en fait, des demi-cercles.
Demi-cercles, il n'y en a pas beaucoup.
Non, mais il peut y avoir des petites courbes qui se dessinent.
Des courbes,
ouais. Ouais, il y a pas mal de choses, de différentes
formes. C'est très linéaire, quand même, je trouve. C'est beaucoup de lignes. C'est un peu courbé.
Et puis, on peut aussi comparer un peu ce qu'on observe, voir un peu des taches floues, en fait, trouver ces taches floues, et ensuite regarder sur soit des applications, soit des cartes du ciel un peu précises, à quoi ça correspond. Mmh. Et ça, c'est aussi c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre le ciel et d'appréhender un peu pour ensuite pouvoir passer au télescope. Puisque c'est toujours ça le vrai problème quand on passe au télescope, c'est pas tant... de savoir se servir du télescope lui-même, parce que ça, au final, avec un peu d'habitude, c'est assez, ça se fait bien. C'est plutôt de savoir quoi observer et où.
Moi, surtout, ce qui est important, c'est dès que je sors un peu qui fait nuit, je regarde le ciel. Quoi.
Oui, ça, c'est
dès
sûr.
Que c'est tout le temps, en fait. C'est un truc... avant, je ne le faisais pas forcément, et maintenant, je regarde un peu ce qu'il y a. Tiens, ça, c'est... C'est de repérer les constellations, mais ça prend 5 minutes des fois, c'est même moins. Hein,
Oui, mais c'est exactement comme ça, en fait, au quotidien, petit à petit, en fait, le ciel y rentre dans l'œil, et que petit à petit, en fait, on prend la mesure de la rotation du ciel au cours de l'année. Au cours de la nuit déjà, mais surtout au cours de l'année, je trouve.
Oui,
ça fait.
Ok, alors voilà pour cette rubrique. On avait une petite mention pour une actu. Là, Pierrick, tu voulais parler d'une aurore boréale.
Oui, en ce moment, le Soleil a un cycle de 11 ans où il a une activité plus dense. Et ça arrive 2024, fin 2024-2025 où c'est le maximum. Et du coup, il y a de plus en plus d'aurores boréales. Et ils ont eu une aurore boréale en Nouvelle-Zélande, qui est à 46 degrés nord.
Ouais. Et donc, la France est à peu près comme nous.
Sud, pardon, l'aurore boréale. La Nouvelle-Zélande est à 46 degrés sud, et nous, on est à 46 degrés nord.
Oui, pardon. Donc, aurore australe, alors.
On a la même
australe,
oui. Pardon. Mais on a la même distance des pôles. Enfin, oui, on a la même distance du pôle nord que eux du pôle sud.
Voilà. Ok. Et donc, on pourrait se dire que peut-être on pourrait observer une aurore boréale en France, ce qui a déjà été le cas.
Ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Moi, j'en ai jamais vu, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple à Nice, qui ont observé certaines années des aurores boréales. Donc, c'est. Bon. Pour l'instant, je suis passé à côté, j'avoue, j'aimerais bien en voir une aussi.
Moi aussi, ouais. En tout cas, je vous invite à aller voir un site qui s'appelle aurora-maniacs.com, qui essaye de prévoir à une demi-heure. Les aurores boréales.
Ah oui.
Et donc, vous avez des cartes mises à jour régulièrement avec voilà, où ça se passe, quand ça se passe, etc. Voilà, vous pouvez jeter un œil, c'est un site bien fourni, je trouve. Il y a plein d'infos dedans. Et...
On peut quand même rappeler rapidement ce que c'est qu'une aurore boréale. Donc, l'aurore boréale, déjà visuellement, bah, c'est une espèce de grand drapé de lumière, vert.
Souvent vert.
Voilà, souvent vert, mais ça peut aller du bleu au rouge, en fait, ça peut prendre toutes sortes de teintes, et qui sont dues en fait au vent solaire, c'est-à-dire aux particules qui sont émises par le soleil et qui ensuite vont être piégées par la magnétosphère de la Terre et qui en rayonnant vont émettre ces
lueurs. Ça se passe surtout dans les pôles en fait, il y a une espèce d'attirance magnétique.
Les particules énergétiques les particules chargées en fait, sont piégées au niveau des pôles en fait de la magnétosphère.
Ouais. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup au pôle nord, parce qu'il y a plus de pays habités. Au pôle sud, il n'y a pas d'endroit habité, puisque c'est entouré d'océans. Mmh. Donc il n'y a pas grand monde, mais au pôle nord, un peu plus de monde, surtout les pays nordiques. La Russie, beaucoup.
Canada. Le Canada aussi, le nord du Canada.
Ouais. Ouais. Alaska, tous ces pays-là, ils en voient plus.
Groenland, Finlande, le haut de la Norvège,
la Scandinavie.
Ok, donc voilà pour cette petite mention sur les aurores boréales. Moi, je me suis installé une appli sur mon téléphone pour en fait ils sont censés envoyer des notifications quand il y a une possibilité non négligeable d'observer une aurore boréale là où vous trouvez. Là, j'avoue qu'en réalité, il m'a déjà envoyé 2-3 alertes. J'ai pas trop compris parce que la tête du ciel. Ouais. Mais bon, okay. À suivre. Alors, on va. Oui.
J'ai une petite annonce pour nos amis du Haut-Diwa, nos amis de Luce et autres. Si vous nous écoutez toutefois lors de la première diffusion de cette émission, ça se passera ce mercredi 10 avril à Luce-la-Croix-Haute. C'est la deuxième journée festive Mémoire du Vivant qui est organisée par l'espace de vie sociale des Lucioles, l'ADMR des Lucioles. Et cette année, le thème, c'est l'astronomie. Donc, toute la journée, à la salle des fêtes, à partir de 9h30, on parlera d'astronomie. La participation est libre. Et qu'est-ce qu'on pourra y voir? Alors, il y a nos amis qu'on ne connaît pas encore, mais quand on les rencontrera, ce sera nos amis de Ciel des Alpes qui viendront animer. Dès 9h30, toute la matinée, des animations au planétarium, dans un planétarium gonflable dans lequel on rentre 25 personnes. On pourra voir le système solaire, des étoiles, des planètes, plein de choses. C'est à partir de 5 ans. Et il y aura 3 séances d'une demi-heure à partir de 9h30. En parallèle, il y aura des expositions et une animation à côté. Ensuite, il y aura aussi il y aura des lectures du Petit Prince. Et des lectures de voyages interstellaires. Ensuite, tout le monde est invité à manger. Il y a un atelier cuisine. Il y a un plat qui est prévu, qui lui n'est pas à prix libre, mais à 10 euros, une salade et une tarte et un dessert. Et puis l'après-midi, ça reprend avec, pour les enfants, il y aura des ateliers pour construire un cahier de la Lune et du système solaire. Et puis, pour les enfants un peu plus grands, à partir de 9 ans, ils proposeront une création de cartes du ciel perpétuelles, les cartes du ciel rotatives. Là, selon la saison, on peut savoir quelles constellations on voit dans le ciel. On aura, lui, on le connaît maintenant, notre ami Emmanuel Jean-Jean du parc régional du Vercors qui parlera de la réserve de ciel étoilé, dont on vous a déjà parlé dans l'émission. Un petit rituel corporel pour faire du lien entre les générations, entre la terre et le ciel, à 15h30. Et puis, ensuite, qu'est-ce que je n'arrive plus à lire, pardon. Un spectacle à nous l'espace, un spectacle de comédie musicale des 3 ans pour toute la famille. Et le soir, s'il fait beau, observation du ciel. Et puis s'il ne fait pas beau, et ben, ça sera de retour dans le planétarium pour découvrir plein de choses du ciel. Voilà. Si vous voulez des renseignements, c'est Eric, si je ne me trompe pas, Eric au 06 35 58 55 26 ou téléphoner à l'ADMR des Lucioles. Voilà, je rappelle, c'est mercredi 10 avril à Luce-la-Croix-Haute et c'est prix libre.
Beau programme.
Bon programme, merci Axel pour cette annonce. On va continuer cette émission explosive avec les Nova, qui est le thème que tu as choisi de nous présenter cette semaine, Axel.
Et oui, alors ça part d'une petite actualité, mais avant je vais vous faire le petit déroulé sur ce fameux terme qui me concerne aujourd'hui, les Nova. Alors déjà, d'où ça vient ce mot, Nova? Et bien, tout simplement, ça vient de Tycho Brahe, qui est un astronome danois, je crois, reconnu, et qui a observé en 1572 dans Cassiopée une nouvelle étoile. Et à l'époque, le langage de la science, qui est aujourd'hui l'anglais, c'était le latin. Et en latin, nouvelle étoile, c'est Nova Stella. Donc il avait marqué ça dans Cassiopée, aujourd'hui, je crois que c'était début novembre 1572. Une Nova Stella, une nouvelle étoile. Et des nouvelles étoiles comme ça, pendant longtemps, on les a appelées donc des novas. Et puis on a un peu mélangé Nova, Supernova, c'était un peu le même terme. Et il faudra attendre les années 30 pour se rendre compte de la différence entre Supernova et Nova, grâce aux observations qui nous ont amené à nous dire qu'il y avait des différences de cause et puis d'énergie, d'échelle d'énergie entre les deux. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de supernova, Fred en touchera un mot peut-être après, mais on va se concentrer sur les novas. Ou peut-être d'abord, je vous parle un peu, oui, je vais commencer par ça, par cette observation de Tycho Brahe en 1572. Donc lui, il se trouve, on le sait aujourd'hui, que c'était une supernova, c'est une des 8 qu'on a pu voir à l'œil nu dans l'histoire de l'humanité qui nous est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Elle a été plus brillante que Vénus. Elle est descendue à peu près aux estimations à magnitude moins 4. Donc une étoile bien brillante qui est apparue dans Cassiopée. Et c'est un événement assez majeur dans l'histoire de l'astronomie qui a amené d'abord à la mise en place, enfin à la nécessité d'avoir des cartes du ciel, ce qu'on appelle de l'astrométrie, des cartes du ciel assez détaillées, assez précises. Parce qu'on s'est dit, une fois qu'on aura tout cartographié, on pourra savoir quand il y en a une nouvelle qui apparaît ou pas. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué. On se dit, celle-là, elle n'est pas nouvelle, je ne suis pas sûr. Bon. Donc voilà, il fallait des nouvelles cartes. Ça a demandé aussi plus de précision, donc l'amélioration des moyens d'observation. Et puis, ça aussi, c'est venu titiller la vision d'Aristote de tout ce qui est après la Lune est immuable, l'univers est pur et ne change jamais. Et là, il y a une nouvelle étoile, c'est quand même notable. D'ailleurs, Tycho Brahe s'est mis en relation avec un astronome espagnol, Jerónimo Miñoz, qui ont comparé leurs observations par astrométrie en comparant là où était cette nouvelle étoile par rapport aux autres étoiles. Et bien, ils ont pu déterminer au moins qu'elle était plus loin que la Lune, justement. Ce qui n'était pas dur.
Encore heureux. Mais
avec les moyens de l'époque, je rappelle, en fin 1500. Ça a eu quelques répercussions, enfin, ça a été noté en tout cas dans la cour anglaise. La reine Elisabeth I à l'époque a convoqué son astrologue et mathématicien, je ne vais pas noter son prénom, monsieur Allen, pour avoir son avis, parce qu'à l'époque voilà, on pensait qu'il y avait des répercussions avec les comètes ou pourquoi pas les novas. Les nouvelles choses qui se passaient dans le ciel étaient souvent annonciatrices de choses sur Terre. Donc on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, voilà, elle a convoqué son astrologue pour avoir son avis sur la question. Et en Chine, on sait que ça a été vu comme un mauvais présage et que le jeune empereur de la dynastie Ming, l'empereur Wanli, On lui a demandé de surveiller son comportement parce que c'était pas chouette que cette nouvelle étoile apparaisse.
T'imagines la tête du... Enfin, ouais. On te dit, ah là mon gars, il y a une supernova, il va falloir que tu te calmes.
On sait aujourd'hui, on a pu l'observer grâce au télescope du mont Palomar dans les années 60-70 aux États-Unis, qu'elle a laissé une petite trace, une petite nébuleuse dans Cassiopée qui n'est pas accessible au télescope amateur parce que pas assez brillante. Elle se trouve en plus à environ 9000 années-lumière. Et alors vous allez me dire, il y a d'autres supernovas qui sont visibles et qui ne sont pas forcément bien plus vieilles, comme la fameuse supernova de 1054 vue par les Chinoises et qui a donné la nébuleuse du crabe dans je ne sais plus.
J'oublie tout le temps aussi.
Oui, je l'ai perdu, je le sais normalement, mais bon. La nébuleuse du crabe, M1, qui elle est visible, mais ce n'est pas le même type de supernova. C'était un supernova de type 2, alors que là, on parlait d'un type 1. Voilà un peu pour cet historique de cette supernova de 1572. Mais revenons donc aux novas. Alors, qu'est-ce que c'est une nova ? Alors, il y en a plusieurs types, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais souvent, ça va être dû à un couple d'étoiles, qu'on appelle les systèmes binaires, puisque je le rappelle, on a souvent cette image du système solaire avec le Soleil au centre et toutes ces planètes et autres qui tournent autour. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément la norme et qu'il y a souvent plusieurs étoiles dans un système, dans les systèmes stellaires. Et donc dans un système binaire où on a deux étoiles, on en a une qui est plus âgée que l'autre, qui va se transformer en géante rouge à la fin de son cycle principal. Et de cette géante rouge, il va rester son cœur, son noyau, une naine blanche, qui n'est plus tout à fait une étoile. D'ailleurs, c'est amusant de noter que le terme « nova stella » veut dire nouvelle étoile, alors qu'en fait c'est plutôt le reste d'un reste d'étoiles qu'on voit.
Oui, il s'agit plutôt de la mort, la fin de vie des étoiles. Quoi.
Mais bon, à l'œil nu, évidemment, c'est un truc brillant, c'est une nouvelle étoile. Donc dans ce système binaire, une étoile qui vieillit, qui se transforme en naine blanche, mais l'autre à côté, elle est encore dans le cycle principal, dans la séquence principale, voire un peu plus vieille et donc aussi en géante rouge. Quoi qu'il en soit, elle se tourne autour et de temps en temps, la petite va attirer vers elle les couches d'atmosphère supérieure de la grande. Ce faisant, un disque d'accrétion va se former autour de la petite naine blanche et ça va s'échauffer petit à petit. Tout ce gaz qui s'accrète, qui s'agglomère autour de l'étoile, des petites collisions, tout ça, ça chauffe, ça produit de l'énergie. Et au bout d'un moment même, on pense que des réactions de fusion nucléaire peuvent apparaître là, dans le tour des naines blanches. L'hydrogène va pouvoir se transformer en hélium, mais même souvent c'est tellement énergétique que ça se transforme tout de suite l'hydrogène en atome plus lourd. Et au bout d'un moment, à force de chauffer, il y a une sorte de cercle vicieux qui se forme. On attire de la matière, ça chauffe. En chauffant, on fait de la matière plus lourde, donc on attire plus de matière, donc ça chauffe. Le cercle vicieux se met en marche comme ça jusqu'au moment où, boum, on libère toute cette énergie, on souffle même une petite partie de la naine blanche de sa couche la plus externe. Et ça brille de loin. Et ça va nous faire une étoile qui en fait était déjà là, mais qu'on va voir plus brillante pendant quelques temps.
Là, le processus que tu viens de décrire, il est un peu comparable à la formation stellaire, en fait. Puisque tu parles de gaz qui chauffe, il y en a de plus en plus. Donc, il y a une accrétion, il y a une augmentation de la masse. Ouais. Et il y a un échauffement de tout ça. Tu parles même de réactions thermonucléaires qui s'allument, ce qui est quand même à la base un peu la définition de ce qui se passe dans une étoile. Donc, en fait, on a presque la naissance d'une étoile au voisinage d'un cadavre d'étoile, en fait.
Oui, alors moins le fait que ça s'agglomère en forme de sphère et que ça atteint cet équilibre dit hydrostatique.
Là, c'est un disque.
Voilà, là, on parle d'un disque. Ouais. Et ça,
mais c'est deux étoiles qui orbitent ensemble, ouais. Et au milieu de ça,
autour de la petite.
Autour de la petite.
Elle prend de la matière à la grosse, et avec cette matière, ça s'échauffe.
Elle s'accélère aussi, elle tourne de plus en plus.
Non. Mais elle gagne en masse et en énergie.
D'accord.
Alors on a des novas assez rapides qui en quelques heures ou jours vont gagner en luminosité assez fortement. D'autres plus lentes, où c'est plutôt de l'ordre de la centaine de jours, le temps qu'elle passe de son son état stable à ce phénomène de nova. On en a qui arrivent qu'une fois, et puis on en a qui sont récurrentes.
Et oui, parce qu'on se dit, si ça se produit, on peut très bien imaginer en fait, qu'une fois que ça a été explosé, ça recommence le même processus. Il y a toujours la grosse étoile à côté de la naine blanche.
Voilà, tant qu'elle a assez de matière, ça peut... Alors, des fois, elle n'aura pas assez de matière et ça va arriver qu'une fois. Des fois, ça va être trop énergétique et ça va devenir une supernova. La petite naine blanche explose carrément. Et donc là, elle ne sera plus là pour accréter de la matière. Et pareil, alors, les récurrentes, elles peuvent avoir elles ont un cycle, du coup, qui est complètement variable. On en a qui vont durer tous les 38 ans, elles vont s'éclairer, tous les 80 ans, tous les 26 ans, les 10 ans. On en a même une, là je parlais pour les novas qui sont dans notre Voie lactée, dans notre galaxie. On en a repéré dans d'autres galaxies, dont une dans le grand nuage de Magellan, il me semble, qui tous les ans éclaire un peu plus et puis se rééteint. Elles peuvent mettre... Pareil, c'est variable, plusieurs jours ou plusieurs mois à décliner ensuite, une fois qu'elles ont atteint leur maximum de luminosité. Et alors, le point d'actu qui m'a amené à potasser un peu tout ça, eh bien, c'est qu'il y en a une qui est annoncée, qui va être visible, tout porte à croire, cette année, entre ce mois de mars passé et jusqu'au mois de septembre, c'est possible, dans la couronne boréale. Alors, la couronne boréale, en ce moment, on la voit que très tard dans la nuit, mais on...
Pas si tard en réalité.
Oui, c'est vrai. On la voit
en deuxième partie de nuit.
Tard dans la nuit, très tard, mais c'est vrai. Tard dans la nuit.
À partir d'une heure du matin, je pense qu'elle est bien visible.
Ouais, c'est ça. On part du Bouvier d'Arcturus et on part vers la Voie lactée, vers Hercule d'abord. Entre les deux, on a ce petit U.
Peut-être avant le Bouvier, on peut partir de la Grande Ourse.
Retrouver
le Bouvier. Alors,
pour retrouver Arcturus et le Bouvier, on part de la Grande Ourse, on prolonge la courbe formée par la queue, par le manche de la casserole, et on tombe sur une étoile bien brillante, Arcturus. Et de là, on part, alors en ce moment vers le bas, dans le ciel d'été, ça serait vers le haut.
En haut à gauche, dans le ciel d'été.
Voilà, prenons le ciel d'été, on fait un pari, on va dire qu'elle pète en juillet, ça sera vers le haut donc, en partant d'Arcturus. En tout cas, on part vers la Voie lactée. Et avant d'arriver au carré d'Hercule, on a ce petit U qui est assez reconnaissable dans le ciel. Un U un peu aplati.
Un demi-cercle, non ?
Ouais, moi je dirais vraiment des rares cercles du ciel.
Pour moi, on a un vrai demi-cercle. Voilà,
Ce petit, diadème qui est la constellation de la couronne boréale. Au milieu de... je vais garder la forme du U pour ma narration. En bas, au milieu du U, on a l'étoile la plus brillante de la constellation, Alpheca, la gemme.
Margarita.
Aussi, elle a plein de noms.
La perle.
Et donc, Et donc de cette constellation, si on l'imagine comme un U droit, comme ça, écrit sur une ligne, et ben ce serait un peu sur la gauche de la ligne, comme s'il y avait un point avant le U. C'est là qu'elle va s'allumer, cette étoile. En ce moment, aux jumelles, on la voit à peine, puisque c'est une étoile. Son petit nom, si vous le voulez, c'est Tau de la couronne boréale, Tau Corona Borealis. Elle est magnitude 10, voire 10 un peu plus. Donc aux jumelles, c'est vraiment la limite de ce que peuvent atteindre les jumelles. Il faut presque une petite lunette ou un petit télescope pour la voir. Et on attend qu'elle atteigne la magnitude 2 ou 3, donc bien plus brillante. Magnitude 2, là, c'est carrément visible à l'œil nu.
Largement.
Il y a encore une centaine d'étoiles qui seront plus brillantes qu'elle, mais elle sera quand même visible. Et alors, comment on sait que ça va être cette année ? Eh bien, c'est facile, elle a un cycle, ça fait partie des novas récurrentes. Elle a un cycle de 80 ans. On sait qu'elle a été observée en 1787, puis en 1866, puis en 1946, 80 ans après, alors exactement 78 ans après, là, pour le coup, on arrive à aujourd'hui. Alors vous allez me dire, pareil, pourquoi c'est pas dans 2 ans, du coup, pour rester sur 80 ans ? Et parce que la dernière fois, en 1946, on l'a vu pile un an avant son éclat, au contraire, perdre en luminosité. Elle est passée de magnitude 10 à 12, un petit peu, et un an après, paf, elle est passée magnitude 3. Et là, sa magnitude 12, elle l'a fait, il y a un an. Donc, tout porte à croire que cette année, elle va descendre en luminosité, briller beaucoup plus fort, et devenir visible à l'œil nu. Le plus vieux témoignage qu'on a de cette nova, c'est dans un registre d'un monastère, d'une abbaye en Allemagne, où ils l'ont observé en 1217. Ouais, où ils ont noté cette nouvelle étoile dans la couronne boréale.
Voilà. T'imagines le travail des moines, là, tous les soirs, à regarder tout le ciel pour référencer toutes les étoiles et se dire, pourtant, c'est pas très brillant comme truc. Tiens, là, il y a un nouveau truc. C'est quand même
Après, quand même, si dans la couronne, d'un coup, tu as une étoile de magnitude 2 qui apparaît, tu peux pas la louper.
En plus, apparemment, ça ne dure pas longtemps. Là.
Celle-là, en particulier, non, elle ne dure vraiment pas longtemps. Elle augmente en luminosité en quelques heures seulement. Et derrière, elle reprend sa luminosité stable en une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc,
quand même des chances de l'observer.
C'est que voilà, soyez prêts à l'observer le jour où l'annonce tombe, parce que ça commence à augmenter. On pourrait très bien braquer un petit télescope dessus ou des jumelles et presque à l'œil nu la voir briller de plus en plus en quelques heures.
Mais on essaiera.
Et atteindre son maximum.
On essaiera, on vous racontera.
Voilà. Pour l'histoire de Tau Corona Borealis.
Eh ben super, merci beaucoup Axel.
Je vous en prie.
On va faire une petite pause musicale cette semaine. Pierrick, c'est toi qui as choisi un morceau.
Je vous propose Kenny Arcana, Tout tourne autour du soleil.
Sèche tes larmes, le ciel ne se venge pas. Reste-toi, sois fort, tout le monde te changera. Accroche-toi à ta flamme et transmute la fable. Relève-toi vite à chaque fois que ce monde te fait un croche-patte. Ne cultive pas la haine ou elle te mangera. Guéris, car si tu es mal en toi-même, ce sera pareil autre part. Si tu cherches un coupable, regarde-toi dans la glace. Ta réalité, tu l'as fait, elle n'est rien d'autre qu'une question d'octave. La vie m'a dit, bonheur dépend de ton regard. De ce que tu dégages, ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas. Car la peur attire tout à elle, magnétique. Les erreurs se répètent parce qu'on cultive l'amnésie. Elle m'a dit, ne juge pas, évite les pensifs. T'analyse tes analyses, car tes pensées te construisent. Ne banalise jamais, tout est unique, médite ça. Et si tu ne sais où aller, recueille-toi, le ciel te guidera. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondante, on l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la fée, le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit, le soleil est en toi. Et tout tourne autour du soleil. La vie m'a dit, écoute les mots que je te souffle. Prends-toi en main plutôt qu'appeler au secours. Ancre-toi dans le présent et son mouvement. Apprendre à donner vraiment, c'est ne rien attendre en retour. Rien n'est trop tard si tu crois t'être trompé de route. Écoute l'intuition, elle fera disparaître le doute. Elle te relie à toi-même, te délivre. Chaque humain voué à prier, que le ciel te bénisse. La vie m'a dit, n'aie pas peur de te tromper. Les erreurs font grandir et puis faut oser pour être entier. Y'a que toi qui décidera du sens de ton sentier. Lâcher prise de résister, voir la vie avec un grand V. Seul l'amour peut guérir et sa personne ne pourra te l'enlever. Maîtrise ton esprit, tout ce que tu vis, tu l'as engendré. Elle m'a dit, ne te rends pas, ton âme ne se vend pas. Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondante, on l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la paix, le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit, le soleil est en toi. La vie m'a dit, crois en toi, rien n'est impossible. Fuis l'orgueil, c'est par lui que les cœurs s'appauvrissent. Reste intègre, fille de la terre, mensonge ne sera jamais vérité. Même si des foules entières l'applaudissent. Parle vrai, pas comme tous ces mots qu'on a trop dit. Si tu n'ouvres pas ton cœur, comment veux-tu que la lumière s'introduise? Reste fidèle à tes convictions, aime sans condition. Elle m'a dit, pose-toi les bonnes questions. La vie m'a dit, toi seul connais tes rêves. Préserve les carles et dévoile ses risques et de les perdre. T'accroches à rien ici, pas tout est éphémère. Reste près de ton cœur, même si tu passes par les ténèbres. Tout part de toi, ta réalité te reflète. Parce que l'on voit ce que l'on croit et que l'on est ce que l'on souhaite être. La vie m'a dit, ose-moi, reconnais-toi en l'autre. Car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant dans l'imagine austère. Elle m'a dit, ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la paix, le vide et retrouve-toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Le soleil est en toi. Et tout tourne autour du soleil. N'oublie pas la
Compte 3-2. Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors, après ce petit morceau, je vais vous présenter un point d'astro. Cette semaine, on va parler des sursauts gamma. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bestioles-là ? Sursauts gamma, déjà, en introduction, on peut dire que ça fait partie des phénomènes les plus énergiques. Enfin, c'est peut-être même le phénomène le plus énergétique qu'on observe en astrophysique. Les sursauts, donc en fait concrètement ça ressemble à quoi? C'est d'un coup en fait une énorme quantité d'énergie gamma, je vais expliquer, mais une énorme quantité d'énergie d'un coup qui apparaît dans une zone du ciel complètement imprévisible et qui va durer de quelques secondes à quelques minutes. Voilà. Donc, en anglais, ça s'appelle, l'abréviation oui, qu'on retrouve dans beaucoup de littérature, c'est GRB, ça veut dire Gamma Ray Burst, donc explosion de rayons gamma. Les gammas, donc, c'est... on repart un peu là dans le spectre électromagnétique. On est à l'extrémité du spectre, dans le rayonnement les plus énergétiques. Donc, on rappelle hein, que ce que nous, on appelle la lumière, en réalité, c'est beaucoup plus vaste que juste le visible. Le visible correspond à certaines longueurs d'onde. Et en fait, au-delà, eh bien, on en a d'autres, des longueurs d'onde. Donc, les infrarouges, hein, si on descend dans le rayonnement de moins en moins énergétique, on va trouver d'abord les infrarouges. Et ensuite, on va descendre gentiment jusqu'aux ondes radio. Et de l'autre côté, au-delà du bleu, parce que le bleu est plus énergétique que le rouge, contrairement au robinet de salle de bain. Au-delà du bleu, ben, on va trouver les ultraviolets, puis les rayons X, et puis enfin les rayons gamma. Donc pour la définition, c'est une fréquence supérieure à 3 fois 10 puissance 19 Hz. Enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est une énergie phénoménale. Donc en fait, ça correspond à une agitation en fait, des photons qui est telle qu'en réalité, ces photons, ils cassent tout sur leur passage, en fait. Tout ce qu'ils rencontrent, ils le défoncent. C'est ça, la radioactivité gamma. Hein, c'est ce qui fait que ça nous tue, en fait. Alors, il faut savoir que ces sursauts gamma, on en observe à peu près un par jour. Donc, c'est quand même si on dit que c'est très peu fréquent dans l'univers, en réalité, vu la quantité de galaxies et d'étoiles qu'il y a, on en observe quand même un par jour. Alors, je vais faire une approche un petit peu historique là, sur ces rayons gamma, voir un peu comment ça s'est passé pour qu'on en arrive un peu à la compréhension qu'on en a aujourd'hui. D'abord, ils ont été découverts accidentellement, les sursauts gamma, en 1967. Donc, c'était deux satellites américains militaires, en fait, qui les premiers ont détecté ces sursauts. Alors, en réalité, en 1967, il y a un traité qui avait été signé entre les États-Unis, la Russie, dans un contexte de guerre froide et d'armement nucléaire. Ils avaient fait un petit traité pour dire qu'on allait limiter les essais atomiques et en particulier, on interdit les essais atmosphériques. Donc, il était interdit de faire péter des bombes atomiques dans l'atmosphère. On comprend bien pourquoi, heureusement. Parce qu'après, on voit bien hein, sur des catastrophes nucléaires du type Tchernobyl ou Fukushima, tout le monde en prend autour. Quoi. Donc en fait, les Américains avaient envoyé dans l'espace des petits satellites pour surveiller la Terre et pour surveiller l'atmosphère terrestre en fait, dans les longueurs d'onde gamma pour vérifier qu'il n'y avait pas d'explosion en fait, qui se produisait dans l'atmosphère. Donc, ils surveillaient et en fait, en surveillant ça, ils sont tombés sur ces sursauts gamma, énorme source d'énergie, là, comme ça, très, très brève. Et ils n'ont pas compris. Donc, ils en ont détecté plusieurs. Et en fait, en 1973, ils ont décidé de déclassifier leurs observations, puisqu'on était dans le cadre des militaires, là, oui. Et de le rendre public. Donc, c'est en 1973 que pour la première fois, voilà, les astrophysiciens ont pu avoir connaissance de ce phénomène. Et c'est là qu'on l'a baptisé donc GRB, enfin les sursauts gamma. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sursauts gamma, ils sont pas observables depuis la Terre, à cause de l'atmosphère, en réalité.
Oui, okay. Ça filtre.
Ouais, en fait, c'est pas tant que ça filtre, c'est surtout que les photons gamma qui arrivent au contact de l'atmosphère, en fait, ils vont se désexciter en provoquant une succession d'excitations. Enfin bon, mais en gros, ils vont pas le photon lui-même, il peut pas traverser l'atmosphère. En fait, il va trop interagir avec la matière de l'atmosphère, donc il va être perdu et on va pas pouvoir observer. Donc on est obligé. Donc c'est pour ça qu'en 1978, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le réseau interplanétaire, en anglais IPN, Interplanetary Network, qui en fait avait pour but de centraliser toutes les données de tous les engins spatiaux, donc de toutes les sondes qu'on avait et des satellites qu'on avait dans l'espace, et de centraliser ces données-là. Et donc l'idée, en fait, c'était qu'au moment où on allait observer un sursaut gamma, en ayant des sources de détection qui sont à différents endroits de l'espace, on pouvait faire de la triangulation, c'est-à-dire en mesurant exactement le décalage temporel aussi avec lequel arrivait sur les différents détecteurs ce pic de luminosité. Ils arrivaient par triangulation à trouver l'origine de la source. Et évidemment, tout l'enjeu, il est là. C'est d'essayer de... Tout l'enjeu depuis le début, c'est ça, c'est d'arriver en fait à localiser suffisamment précisément cette source de rayon gamma pour ensuite derrière pointer un télescope optique ou un autre télescope pour pouvoir observer en fait et essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Donc en 1979, en fait, là il y a un moment assez important en fait où ils vont réussir à localiser un sursaut gamma comme provenant d'un reste de supernova dans le grand nuage de Magellan. Donc là, c'est là que ça a vraiment commencé en fait, à les mettre sur la piste de ce qu'on était en train d'observer. C'est que là, on a un lien avec les supernovas. Mais on a quand même un gros... ils se sont retrouvés quand même face à un vrai problème et ça a démarré une controverse en fait, qui a duré bien 15 ans, qui était de savoir mais où sont situés en fait, ces rayons gamma. Est-ce que vraiment ils sont extragalactiques? Et là, ça leur posait vraiment problème, comme on avait l'impression de l'avoir détecté dans le grand nuage de Magellan. Mais il y a une partie des scientifiques qui ont dit que ce n'est pas possible que ce soit ce rémanent de supernova qui soit à l'origine, parce qu'on est, dans une autre galaxie, donc on est très loin. Et vu la quantité d'énergie qu'on observe là, ça voudrait dire que là-bas, il y a une quantité mais phénoménale d'énergie qui est émise. Et jusqu'à présent, pour eux, ce n'était pas possible. Enfin, ou alors, ils se disaient, mais qu'est-ce qui est capable de produire autant d'énergie? On n'en a aucune idée. Donc, ils étaient dubitatifs. Et il y a eu deux écoles, ceux qui disaient si c'est extragalactique avec une énergie énorme dont on ne connaît pas la source, et d'autres qui disaient non, c'est pas possible. A priori, il y avait une théorie qui avait été développée comme quoi il y avait des étoiles à neutrons qui s'étaient échappées du disque de notre galaxie, donc qui n'étaient pas loin et qui émettaient ce type de lumière, comme les pulsars en fait, ce genre de choses.
Ouais, c'est parce que c'est des sursauts, donc c'est très bref.
C'est effectivement très bref, ouais. Je vais détailler. Ouais, en fait, surtout avec toutes les observations qu'ils ont accumulées. Donc, tu dis première détection en 67. Là, on arrive dans les années, fin des années 80, début 90. Ils découvrent qu'il y a quand même deux types en fait, principaux. Enfin, il y a deux types de sursauts gamma. Il y a ceux qu'on va appeler courts, donc qui font moins de 2 secondes et qui sont extrêmement puissants. Et puis, il y en a qui vont être plus longs, c'est-à-dire qui vont faire entre quelques secondes, voire quelques minutes. Bon, c'est jamais plus long que ça. Hein. Et qui, eux, vont être un peu moins puissants. Donc, clairement, ils observent depuis le début ces deux types de sursauts gamma. Okay. Donc, forcément, ça veut dire aussi deux processus de formation un petit peu différents. Donc, voilà, on va se retrouver, en fait, avec cette hypothèse. Enfin, où se situe, en fait, tout l'enjeu est là, où se situe ces sursauts gamma, est-ce qu'ils sont extragalactiques et tellement puissants qu'on ne sait pas d'où ça vient ou pas? Et en 1997, en fait, la controverse a pris fin avec la détection en fait, du sursaut gamma et de sa rémanence. Alors, je vais expliquer un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, on a détecté à la fois le sursaut et aussi la trace qu'il laisse. Et donc, on a pu en fait, obtenir un spectre de la lumière émise, dans laquelle on a trouvé les raies du fer, les raies du magnésium, et donc on a pu mesurer un redshift, un décalage vers le rouge, et donc on a vu que c'était effectivement extragalactique. Et là, ça a été fin de la discussion, ça a été prouvé, quoi. Donc, je ne vais pas revenir sur les histoires de décalage vers le rouge, et juste je rappelle que c'est une méthode en fait, qui permet, en tenant compte de l'expansion de l'univers, d'évaluer les distances, en fait, des objets. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans l'étoile polaire. Je vous renvoie à ces émissions-là parce que c'est un sujet à part entière.
Parce que jusqu'à maintenant, aucun sursaut gamma n'a été observé dans la Voie lactée, dans notre galaxie.
Non.
C'est ça.
Alors j'y reviendrai après. Okay. Mais effectivement, on n'en a pas observé dans notre galaxie pour l'instant.
C'est toujours extra-galactique, donc.
Ouais, tout à fait. Donc là, on en a la preuve depuis 1997. En fait, il a fallu attendre que la technologie permette des détections suffisamment précises et de pouvoir coupler, en fait, de façon assez rapide, l'observation de la source en gamma avec une observation en X, en rayon X, en fait. Donc, j'explique un peu cette histoire de rémanence du sursaut gamma. C'est-à-dire qu'a priori, ce sursaut gamma, il est émis, en fait, c'est un faisceau étroit, qui va être étroit et symétrique, et qui est émis au niveau des pôles, en fait, de l'objet. Exactement comme... En fait, ça ressemble un peu à un pulsar, quoi, quelque part. Et surtout que cette matière-là qui est émise, elle atteint des vitesses relativistes. Donc on est très très proche de la vitesse de la lumière au moment où c'est émis. Donc, il y en a eu un qui a été vraiment important, c'est un sursaut gamma qui a été détecté en 99, qui a été le plus puissant, le plus intense jamais détecté. Et là, pour vous donner une idée, on est à 1000 fois le quasar le plus lumineux. Donc j'avais fait une émission sur les quasars, je rappelle, on parle là en fait des trous noirs supermassifs au cœur de galaxies qui effectivement émettent de l'énergie, de grandes quantités d'énergie à cause du fait que cette matière qui est autour en fait du trou noir supermassif est aspirée et donc rayonne au moment où il l'est. Donc là on est sur un truc 1000 fois plus fort et Pour comparaison, ça fait 1 million de fois la luminosité de notre galaxie. Donc voilà, vous imaginez un truc qui, pendant moins de 2 secondes, émet 1 million de fois la lumière d'une galaxie.
Un million de fois la lumière de 200 milliards d'étoiles.
C'est ça.
T'as pas envie que ça arrive dans ta chambre, ça.
Ben, on en reparlera après.
Ah oui. Non, mais oui, on a eu un problème de casque, mais bon, c'est pas grave, ça arrive.
Ok. Casque. Alors, oui, petit problème de son, désolé.
Non, c'est là, oui, effectivement.
Mais ça m'a surpris. Ouais,
j'ai l'impression que tu me criais dessus d'un coup.
Ouais, d'un coup, c'était hyper. Ok, bon.
C'est pas grave.
Passons.
Oui.
J'en étais aussi, voilà, à ce sursaut gamma extrêmement, extrêmement intense qu'on a détecté en 99. Et donc là, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que là, on a vraiment pu même avoir une contrepartie optique, en fait, de l'objet. Donc là, on a pu vraiment voir sa structure. C'est là qu'on a pu mettre en évidence cette histoire de faisceau étroit, symétrique, de matière relativiste. Et donc, on voit
quand
aussi...
tu dis matière relativiste, c'est des photons?
Ah ouais, pardon. En fait, quand je dis matière, ouais, c'est une pompe. J'ai un peu
c'est
condensé.
C'est la matière qui bouge.
Ouais, c'est ça. C'est de la matière. En l'occurrence, c'est des électrons qui vont se déplacer à des vitesses quasiment égales à celles de la lumière, juste un peu en dessous. De toute façon, un électron ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière elle-même, puisque il a une masse, mais juste en dessous. C'est ça, oui. D'accord. Matière relativiste, effectivement, c'est une expression un petit peu raccourcie. Mais c'est la vitesse de leur déplacement. Oui, en fait, tu as deux choses. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais parler de la rémanence un petit peu, expliquer ce que c'était que cette rémanence. Donc, d'un côté, on a vraiment l'émission. Donc, je n'ai pas encore donné les causes, mais je vais y arriver. Hein. L'émission en fait, de ces rayons gamma, pour le coup, extrêmement énergétiques, qui vont parcourir l'espace. Mais en réalité, ces rayons gamma, quand ils vont interagir avec le milieu interstellaire. Parce que, comme je disais, là, il y a tellement d'énergie que dès que ça croise de la matière, de toute façon, ça interagit, il y a du rayonnement qui va être émis. Donc, en fait... C'est ça qu'on observe aussi dans les autres longueurs d'onde, en rayon X en particulier. Ah oui. On va observer en fait l'effet de cette éjection de matière sur le milieu interstellaire environnant. Et donc, on va observer une émission de lumière comme pour une nébuleuse ou quelque chose comme ça. Sauf que là, c'est beaucoup plus fort. Donc, voilà les deux choses qu'on observe.
Quand le rayon traverse une nébulosité, un nuage de gaz, quelque chose
comme ça,
ou une étoile...
Le milieu interstellaire, en fait. Donc, tout ce qui peut se trouver dedans, du lumière, gaz principalement.
La lumière change et...
Ça va exciter, en fait, ça va se mettre à exciter les atomes du milieu interstellaire qui, du coup, en réponse, vont se désexciter en émettant de la lumière.
D'accord.
Comme d'habitude.
Ouais.
Donc, voilà. Et alors, en 2004, on a eu le programme SWIFT qui est arrivé, qui a été beaucoup plus précis et qui, lui, a vraiment permis, en fait, de développer un petit peu la théorie sous-jacente à tout ça et de faire la distinction, donc, entre ces sursauts longs et ces sursauts courts. Alors, le bilan des courses, c'est que les sursauts longs sont vraiment dus à l'effondrement d'une étoile géante et donc à la formation d'un trou noir derrière. Donc on est complètement dans le modèle de la supernova. Toi, tout à l'heure, tu nous parlais des novas, Axel. En fait, en réalité, on voit qu'on a affaire à deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Toi, tu parles de nova, c'est-à-dire d'un système binaire avec une étoile blanche qui se met à attirer de la matière de son compagnon. Et là, on parle d'une étoile, a priori seule, qui explose en fin de vie. On a déjà parlé plein de fois des supernovas. Voilà. Et donc, à la fin, donc une étoile qui est bien massive, à la fin de sa vie, se transforme en étoile à neutrons ou en trou noir. Et en fait, c'est la formation de ce trou noir qui va déclencher l'émission d'un sursaut gamma. Donc ça, c'est quand même là qu'on en est au niveau de la connaissance, enfin de la théorie en tout cas. Et sur les sursauts courts, alors là, on a un autre phénomène qui intervient. J'avoue, là, j'ai appris des choses. Donc là, on va parler de kilonova. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce terme. Donc comme son kilo, hein, c'est 1000 fois. Et là, en fait, on parle en fait de kilonova parce que c'est 1000 fois plus brillant que ce qu'on observe d'habitude pour les supernovas. Ah, ouais. Et donc là, ce sursaut court, donc très énergétique, moins de 2 secondes, lui, il est dû en fait à la fusion de 2 étoiles à neutrons. Donc là, on est quand même sur un truc assez extrême, c'est-à-dire on est sur un système, en fait, il faut imaginer un système binaire de 2 étoiles très massives, en fait, c'est ça, qui à la fin de leur vie, en fait, chacune de leurs vont se transformer en étoiles à neutrons qui continuent à orbiter l'une autour de l'autre. Le truc, c'est que sur un système binaire comme ça, 2 étoiles à neutrons qui interagissent, il y a perte d'énergie, en fait. Il y a clairement perte d'énergie dans le système, par échange, par frottement, par tout ce que vous voulez. Et en fait, petit à petit, ces étoiles se mettent à se rapprocher. Si on perd de l'énergie, on se rapproche et finalement, on finit par tomber l'un sur l'autre, quoi, en réalité. Et c'est ce qui se passe. Et donc, ces 2 étoiles à neutrons vont fusionner et là, on a aussi l'apparition d'un sursaut gamma, donc court, c'est-à-dire extrêmement énergétique, encore plus que celui d'avant, et donc qui est dû à cette fusion de 2 étoiles à neutrons.
Qui crée un trou noir, ou pour le coup, là ou...
Alors là, c'est une bonne question. Il parle de fusion, donc est-ce que ça ne crée pas plutôt une étoile à neutrons plus grosse? J'avoue, j'en sais rien. Okay. Et je pense qu'eux-mêmes non plus. Là, on est quand même un peu à la limite de ce qu'on peut faire. Alors, il y a quand même une pour la théorie. Donc je vais finir un peu, enfin, et les observations, parce que comme on parle de quelque chose qui à la base est observationnel, c'est quelque chose qu'on observe et on essaye d'expliquer ce qu'on observe. C'est assez régulier quand même en physique. Des fois c'est l'autre sens. On fait une théorie, on essaye de prouver cette théorie par des expériences, mais là c'est dans l'autre sens.
Ouais, on parle d'observation et d'ailleurs il y a un petit lien à faire avec la toute naissante astronomie gravitationnelle, depuis la détection des ondes gravitationnelles par les laboratoires LIGO et Virgo. Je crois que la première observation, justement, c'était dû à une fusion d'étoiles à neutrons. Ça a été,
effectivement, en fait, il y a...
déduit après. Ouais.
Oui, l'énergie qui est libérée par ces phénomènes quand même extrêmement violents, sont détectables par les ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est sûr que cette astronomie, elle est encore balbutiante pour l'instant, parce qu'on est sur des sensibilités qui sont,
qui sont folles,
extrêmes, et voilà.
Donc, et puis la première, c'était il n'y a pas encore 10 ans.
Mais ça, c'est sûr que ça va se développer, ça va faire comme tous les instruments de mesure, ça va s'affiner, va se préciser, et on en saura peut-être plus dans la suite. Mais effectivement, il y a des détections gravitationnelles qui sont faites autour de ces événements. Alors, il y a un truc qui est un peu étrange quand même, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi, mais toutes les étoiles ne font pas de sursaut gamma. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une supernova qu'il y a forcément un sursaut gamma. Alors voilà, donc ça c'est mystère. Ouais. Il y a encore plein de choses qui sont quand même assez mystérieuses. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé aussi, mais qui sont le fait qu'en fait, il y a certains sursauts gamma qui ne rentrent ni dans la catégorie des courts, ni dans la catégorie des longs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un spectre de court, mais avec une durée de long, ou inversement externe. Il y a des phénomènes un peu croisés comme ça qui ne sont pas expliqués. Donc il y a encore clairement beaucoup de recherches à faire là-dessus, quoi.
Alors, et pourquoi on n'en observe pas dans notre galaxie aussi? Ça, c'est assez étonnant.
Alors, ça, en fait, c'est une bonne question. Ce qui est intéressant, je ne l'ai pas dit, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces sursauts gamma, quand on les a détectés, on se rend compte qu'on les détecte dans n'importe quelle direction du ciel. Il n'y a pas de direction privilégiée.
Oui.
Ça peut venir de n'importe où, en fait.
D'accord.
Donc ça, d'ailleurs, c'était un argument en faveur du fait que c'était forcément extragalactique, parce que si c'était dans le plan de notre galaxie, à ce moment-là, oui. on aurait une concentration quand même des provenances dans le disque de la galaxie, voire dans la direction du centre, quoi. Mmh. Et ce n'est pas le cas du tout. Donc, effectivement, on n'en a jamais observé. Pourquoi c'est une bonne question. En fait, le truc, c'est qu'ils se disent quand même qu'il y a pas mal de restes de supernova dans notre galaxie, qu'on observe, et que donc c'est tout à fait possible qu'il y ait eu des sursauts gamma dans le passé. Voilà, ça c'est... Mais de fait, depuis qu'on observe les sursauts gamma, ça fait jamais que...
Oui, c'est court,
j'ai finalement. Dit quoi, 67 la découverte, ouais. Hein, ouais, donc ouais, on est à 5, un peu, voilà,
60 ans.
60 ans. Ouais. Eh bien oui, on n'en a pas observé provenant de notre galaxie. Mmh. Bon.
Okay.
Par contre,
oui, c'est toujours des échelles de temps.
Puis de toute façon, on n'en voit pas toute notre galaxie vu qu'on est dedans. On a toujours une partie qui est un peu.
Si c'est un peu de l'autre côté par rapport au centre, on voit rien.
Aussi être, atténué par le signal même de la galaxie.
Donc, on peut en voir qu'une moitié déjà. Et puis, je répète, c'est un phénomène très rare. Même si on n'en observe qu'un par jour. Mais c'est dû à la statistique, du nombre de galaxies qui est énorme.
Oui, un par jour sur 1000 milliards de galaxies, avant que ça tombe sur la nôtre. Enfin, tu vois, c'est pareil, c'est des échelles de temps.
Y a ça,
et c'est pareil pour les novas dont je parlais. Je disais qu'il y en a des récurrentes et pas d'autres, mais il y a des scientifiques qui pensent que parmi les non-récurrentes, c'est peut-être parce que leur cycle est de 1000 ans, 10 000 ans, que du coup, on ne sait pas encore. Quoi, ouais.
Est-ce qu'on a un visuel de ces sursauts gamma? Ou c'est que de la détection de particules?
De toute façon, c'est pas en visuel, le sursaut gamma. Donc tu peux pas le transposer. Il y a sûrement des images en X de rémanents. Voilà.
Sur un capteur optique, ça te ferait une interférence un peu. Tu vois.
Ouais.
Si tu veux t'amuser à aller voir les appareils photo, enfin les caméras, les bandes qui ont été amenées près de Tchernobyl à l'époque, juste après l'explosion, il y a une sorte de brouillard, de bruit sur la vidéo. C'est ça en fait, c'est les particules qui interfèrent. Mais à l'œil nu, non.
Ouais.
Voilà. Alors, il y a aussi l'idée, donc, parce qu'effectivement, on se dit, s'il y a des phénomènes comme ça aussi violents, est-ce que ça peut nous arriver?
J'ai peur maintenant, Fred. Non,
rassure-nous. Alors, je vais vous rassurer. Déjà, quand même, on pense que 200 années-lumière autour d'un sursaut gamma, tout est désintégré. 200 années-lumière. Mais voyez un peu. Là,
C'est désintégré,
Il n'y a plus rien. C'est 200 années-lumière, c'est quand même pas rien. Voilà. Mais je vous rassure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étoile à 200 années-lumière autour de nous. Apparemment, il n'y a aucune étoile qui potentiellement est candidate à émettre un sursaut gamma. Donc déjà, a priori, voilà. Oui, c'était ça aussi que je voulais dire par rapport à tout à l'heure. Tu dis on ne les voit pas forcément, mais il y a aussi l'idée que comme c'est émis dans une direction très, très précise, s'il suffit que le faisceau ne pointe pas vers la Terre et tu ne l'observes pas.
Oui, c'est au niveau des pôles, donc à chaque fois.
Oui, c'est ça.
Donc il y a aussi ce biais-là qui joue beaucoup.
Tout à fait.
Alors voilà, donc on n'a jamais détecté de sursaut gamma dans notre galaxie. Comme on le dit, il y a des restes de supernova, donc pourquoi pas la possibilité que dans le passé, il y en ait eu. Alors il y a quand même des études sur les faits. Au-delà de cette zone de 200 années-lumière où là tout est détruit,
c'est carbonisé entre.
Ils pensent que. Bon, c'est des estimations, parce que c'est difficile de vraiment savoir, mais qu'à une distance de 6500 années-lumière, en fait, il peut y avoir appauvrissement de la couche d'ozone. Donc,
6500 années-lumière, il y a des effets encore.
6500 années-lumière, ouais. En fait, ils pensent que jusqu'à 6500 années-lumière, on pourrait avoir une extinction massive.
Ah ouais, genre détérioration de notre atmosphère.
C'est ça.
Des choses,
modification du climat.
Un souffle.
Fait. Et en particulier, en fait, appauvrissement de la couche d'ozone, des pluies acides, donc aussi un obscurcissement du ciel lié à ça et un refroidissement. Bon, grosso modo.
C'est des sacrées bombes.
Donc voilà, il y en a qui ont émis l'hypothèse que peut-être une des extinctions, parce que des extinctions massives de population, il y en a eu un sacré paquet en réalité dans l'histoire de la Terre. Il y en a plusieurs où on a 80% des espèces qui disparaissent. Enfin, ça a été assez brutal quand
en
même.
4 milliards d'années.
L'histoire de la Terre.
Oui, oui.
Donc voilà.
Possible qu'il y ait eu des extinctions sur la Terre liées à ça. C'est ça que.
C'est peu probable, mais c'est pas impossible. D'accord. C'est surtout impossible à prouver.
Oui.
C'est surtout ça le problème en fait. Donc à partir de là, enfin,
en
tout cas, on n'a pas
de traces. Non, ça laisse pas de traces. Des fois, je sais que les éruptions solaires laissent des traces dans les végétaux.
Ouais, mais là, non, c'est ce type de
je sais pas.
La glace,
peut-être dans les glaces. J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, il y a aucune, il y a aucune méthode imaginée pour pouvoir prouver que à telle époque, il y a eu un sursaut gamma qui a touché la Terre.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Donc, c'est de la spéculation.
Oui, parce que sur les matériaux radioactifs, l'émission de rayons gamma, il dure quelques heures, quelque chose comme ça, pas bien plus. Après, c'est d'autres rayons qui rentrent en jeu, les rayons alpha et bêta, mais les gamma qui sont les plus énergétiques, c'est aussi parce qu'ils partent à fond et du coup, assez vite, il n'y en a plus.
D'accord.
Voilà, donc ce qui n'est pas de la spéculation, c'est quand même l'observation et la réalité de ces sursauts gamma. Alors là, on voit en fait que au niveau de l'explication du phénomène, on part un peu sur, on va dire, la pointe de ce que fait l'astrophysique en ce moment. Hein, c'est-à-dire, à part l'étude de la planétologie qui est quand même très très active, on est quand même beaucoup sur ces histoires de quasars, de trous noirs supermassifs. On a quand même les premières des images de trous noirs qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Donc on a quand même toute une partie de l'astrophysique qui se met à travailler vraiment de plus en plus sur ces phénomènes ultra énergétiques qui se passent au cœur des galaxies ou bien de formation de trous noirs, etc., de trous noirs stellaires. Et les sursauts gamma, ils sont dans cette thématique-là. Voilà dont je voulais vous parler cette semaine.
Très bien.
Merci Fred.
Ouais. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de belles observations à travers les nuages.
Ouais.
Et on vous dit à la semaine prochaine.
Bon dimanche.
Ouais. Salut.